Philippe Harps, bonsoir. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Projet Feuille Leader. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 3 minutes ?
Je suis le premier Philippe Harps, donc je suis un marin d'active dont la mission est de faire rayonner la marine dans la course au large et notamment sur le circuit Figaro qui comporte la solitaire du Figaro en point d'orgue.
Petit, tu voulais être commando ou skipper ?
Petit, je voulais être pilote de chasse. J'ai pas pu passer les tests pour des raisons diverses. Et puis, du coup, en terminale, j'avais dit je serai pilote de chasse ou commando marine. J'ai pas pu passer les tests pilote de chasse, donc je me suis engagé dans la voie des commandos marines.
Est-ce que tu sais conduire une moto ?
Oui.
Est-ce que tu sais conduire une moto en tout terrain ?
Oui.
Est-ce que tu sais faire décoller un avion de tourisme et le poser ? Un DR400, un Cessna
150. Sur simulateur.
Est-ce que tu sais faire décoller un hélicoptère
et le
poser ?
Je sais faire décoller et atterrir un parapente.
Ok.
Et par contre, je sais que atterrir en parachute.
Est-ce que tu sais faire décoller un hélicoptère et le poser ?
Non.
Plongée, t'y as répondu, donc t'es à l'aise avec le fait d'être sous l'eau, avec des bouteilles, etc.
A priori.
T'y as répondu aussi, est-ce que tu sais sauter en parachute ?
Ouais.
Est-ce que tu sais démarrer un jet ski et t'en servir ?
Bon, quand même.
Est-ce que tu sais démarrer une motoneige et t'en servir ?
Alors, motoneige, j'ai jamais fait, non.
Et est-ce que tu sais démarrer un char et le piloter ?
Jamais fait.
Pourquoi est-ce que vous parlez bizarrement entre vous ? Ah, tu n'attendais pas celle-là. Quand je suis en vacances avec des potes militaires, il m'arrive d'entendre au petit-déj « Salut, t'as bien dormi ?» et la réponse c'est « Race ». On va à la plage, on me répond « Affirme ». Et t'as chopé son numéro hier soir, négatif.
Bon, c'est pas compliqué, hein. C'est que c'est simple et efficace. Donc y a un adage hein, dans les communications radio, c'est clair, concis, précis. Si on commence à raconter sa vie, etc., on perd du temps. Et souvent, en Figaro d'ailleurs, le directeur de crew, il m'appelle Philippe Rass. Ça les fait rire, parce que du coup, ils sont tous entre... On a une vacation en sécurité à faire le matin et le soir sur la solitaire du Figaro. Et souvent, je dis, ouais, salut Yann, moi ça va, c'est cool, bonne journée. Tout va bien à bord, bonne soirée à tous, c'est cool. Sauf qu'en fait, on est 34 bateaux à faire 20 secondes. Donc du coup, moi je dis, Marine Nationale, Fondation de la Mer, comment ça va à bord ? Philippe Rass, voilà. Donc du coup, Yann m'appelle Philippe Rass. Du coup, 5 secondes fois 34 bateaux, ça va. 20 secondes fois 34 bateaux, c'est pas la même.
C'est une autre.
Et je préfère qu'on raconte les blagues après, du coup, après la vacation sécurité.
Est-ce que tu as quitté la Marine Nationale avec ton job de skipper aujourd'hui ?
Non. Du coup, je suis le skipper du Figaro Marine Nationale Fondation de la Mer et un petit peu en parallèle à la carrière d'Eric Tabarly, du coup, je suis toujours d'active et je fais rayonner notre chère institution dans la course au large. Et j'essaie de dire aux jeunes que ça vaut le coup de franchir le pas et de s'engager. Donc, avec le sens noble de l'engagement, c'est un métier à contrainte. Il y en a beaucoup. Mais ça rend plus grand. D'accepter ces contraintes et on sait pourquoi. C'est pour être dans un pays en paix où les choses vont bien. Et ben quand on a accepté ces contraintes, ça nous grandit aussi quoi. Et donc aux jeunes, j'essaie de leur dire allez-y, ça vaut le coup. Vous allez voir des expériences incroyables, techniquement, humainement. Et en fait, ce qui reste à la fin, on a beau avoir fait les choses les plus techniques, c'est l'humain qui reste et ses potes. Voilà, moi, je suis toujours mes potes avec qui on a servi. On est toujours super potes et il y a des choses qui nous rassemblent et qui sont très fortes, quoi.
On est sur un bateau qui s'appelle le Figaro du nom de la solitaire. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est qu'une solitaire et qu'est-ce que ça a de si mythique ?
Alors, du coup, du nom du journal. Mais du coup, parce que c'était initialement la course de l'aurore et qui a été rachetée par le journal du Figaro. Et en fait, c'est ces deux journalistes qui ont créé cette course et qui ont dit, et les marins. Donc, première course en solitaire française quand même, donc 1970. Et qu'est-ce qu'elle a de mythique ? C'est ça la question ?
Ouais, de particulier, elle est quand même reconnue comme étant, on dit quoi, l'école des champions ou quelque chose comme ça ?
Ici, Nestlé Légende. Voilà. C'est le pitch de la solitaire du Figaro.
Est-ce que c'est vrai ? Alors, avec un minimum d'humilité, mais...
Moi, j'aime bien être factuel. on va être juste factuel. Quand t'as quelqu'un comme Michel Desjoyaux, que voilà, qui est quand même une légende de notre sport, quand quelqu'un comme Michel Desjoyaux dit, qui a gagné 2 Vendée Globe et 3 solitaires du Figaro, dit pour lui sportivement la plus compliquée à gagner était la solitaire. Bon bah on peut considérer que la solitaire du Figaro, c'est pas un passage obligé, mais c'est un passage qui fait grandir plus vite quoi. Et si on regarde tous les gros skippers, enfin tous les meilleurs skippers sur les gros bateaux, bon en gros ils sont passés par la case Figaro, les Camas, les Alain Gauthier, les Jean Le Cam, enfin bref, je pourrais en lister, en fait c'est presque tous. Et quelque part, j'invite les étrangers à venir qui veulent faire du large. C'est bien de mettre un premier pied en Figaro, vous allez gagner beaucoup de temps si vous voulez faire des plus gros bateaux quoi. Et c'est marrant parce que du coup il y a un monde très anglo-saxon qui est la course au large, enfin le tour du monde en équipage, la Volvo Ocean Race. Et Franck Camas a créé un équipage deux fois, donc avec Groupama et un équipage Dongfeng sous financement donc de l'entreprise chinoise Dongfeng. Et les anglo-saxons ont eu un peu de mal à avaler que les Français étaient venus shipper deux fois la victoire. Donc au début, ils ont dit les Français, ils arriveront jamais à structurer, c'est tous des solitaires. Et puis finalement, il fallait mettre tout ça en musique, mais les gens savent naviguer quoi. Donc du coup, la première fois, ils ont peut-être dit que c'était de la chance, la deuxième fois, c'était peut-être plus dur, peut-être qu'ils se sont remis en question quoi.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur à quoi ressemble ta vie pendant ces 15 jours, 3 semaines
de solitaire ?
Ouais.
Du coup, l'arrivée au village, donc les sollicitations. Bon, moi, j'étais de Nantes, donc pas mal de sollicitations médias, les copains qui passent. Donc le temps passe un peu vite. Les derniers fignolages du bateau, préparé pour être bien prêt au départ. Donc beaucoup de sollicitations, les briefings sécurité, briefings de course, briefings des sollicitations sur le village de la solitaire du Figaro. Donc voilà, le temps passe assez vite. Mais là-dedans, il faut capitaliser du repos, il faut préparer sa course aussi, les briefings avec son routeur, avec son groupe d'entraînement, avec son coach. Et donc, du coup, le temps passe vite. Et quand on prend le départ, j'avoue qu'en Figaro, nous, on est déconnectés, on n'a pas de communication data à bord, outre que la VHF, donc notre radio de bord, qui capte jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Et du coup, ça fait du bien. Et après, on arrive à terre. Alors, selon si ça marche bien ou pas, on arrive, les sollicitations médias, sollicitations au village de nouveau, reconditionner de sa course. Donc, gérer avec son préparateur, lui, il s'occupe plutôt du bateau. Et puis, raconter son histoire et préparer la course suivante, quoi.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette limitation des moyens de bord
en communication?
Communication, navigation aussi, parce que le fait que vous ayez pas internet fait que vous avez pas accès à la météo en temps réel, j'imagine.
Oui.
À quoi vous avez le droit et comment est-ce qu'on se débrouille sans ce à quoi on n'a pas le droit?
Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on quitte le quai, on est déconnecté. Donc la seule communication vers l'extérieur du bord qu'on a, c'est notre radio dont je parlais. Et après, on part avec nos fichiers météo de départ. Donc, il faut savoir qu'on a un ordinateur à bord avec la cartographie. Et en fait, on intègre des fichiers qui nous donnent tous les vents et les courants sur le long de notre course. Mais plus on avance dans le temps et plus il y a un effet papillon. Et il y a une différence entre ce qui est sur le fichier et la réalité. Et après, il faut savoir interpréter tout ça. Et toutes les 24 heures, ça je parle de la solitaire du Figaro, toutes les 24 heures, on a une météo qui nous est donnée par la direction de course, qui est la même pour tout le monde, mais du coup qui est à la voie. Et après, c'était quoi l'autre question?
Et même quand vous êtes hyper loin, vous captez la radio, ne serait-ce que la radio, c'est quoi la portée de la radio?
Du coup, ça c'est la base, c'est par la radio qu'on communique avec la direction de course. On n'a pas le droit de communiquer avec d'autres choses que la direction de course ou les gens de la course pour demander des informations qui pourrait aller vers la performance. On n'a pas le droit d'avoir des communications que les autres ne peuvent pas avoir, qui peuvent donner de la performance. Si je suis pas à portée, on a un téléphone satellite où les communications sont filtrées. Enfin, ils vérifient que les numéros qui soient dedans soient celles de la direction de course. Et on peut redemander ces informations via le téléphone satellite.
Est-ce que pendant cette solitaire, il t'est arrivé de passer plus de 24 heures sans dormir?
Oui.
Comment
sur cette solitaire, je sais plus, celle d'avant, c'est sûr.
Comment on tient?
Bah après c'est quand même pas compliqué, on est tous été jeunes, on va en boîte, finalement on a fait déjà un tour de l'horloge et puis on recommence sur le boulot. Donc finalement il y a quand même pas mal de jeunes qui ont fait 36 heures sans dormir. Donc 36... après par contre la différence c'est que là il faut continuer à naviguer.
Et que c'est un peu plus sportif que juste enquiller des bières assis sur un banc quand même.
Mais donc vu que ça s'arrête jamais, du coup ça maintient éveillé aussi. Donc rien d'impossible, hein, ça se fait, on s'y entraîne. Après, il y a un moment, ça pique un peu du nez, mais du coup, la difficulté, c'est qu'en Figaro, on va pas dormir plus de 20 minutes. Et par contre, il y a des moments où le bateau, il barre bien, le pilote barre bien, et là, on va pouvoir enchaîner 20 minutes. Pourquoi 20 minutes et pourquoi on fait pas une heure? Pourquoi on fait trois fois 20 minutes, pas une heure? Parce qu'il y a un moment, il y a la sécurité, il faut qu'on regarde ce qu'il y a devant, quoi. Et en général, on essaie de pas dormir quand on va à la côte, parce que si on se réveille pas,
Je fais juste une petite aparté pour ma mère qui écoute le podcast. Quand il dit le pilote, c'est pas une deuxième personne, mais c'est le pilote automatique et donc un ordinateur qui gère la barre.
C'est ça. Donc le pilote, hein, on lui donne des consignes. Il a plusieurs modes de fonctionnement. Un angle par rapport au vent, un cap, direction vers un waypoint. Il y a plusieurs modes.
Est-ce que tu dirais que ton passé de commando marine est un avantage par rapport aux autres?
Oui. Oui, c'est un avantage parce que bah des nuits courtes sur l'eau, ben je les ai pas découvertes en Figaro. Donc oui, c'est un avantage.
Est-ce que vous avez strictement tous le même bateau? Parce que quand j'ai interviewé Tanguy Le Turquet, il m'a dit ça sort du chantier Beneteau. Mmh. Est-ce que il y a des choses que vous avez le droit de préparer?
Oui. Alors du coup, c'est la seule classe de course au large en monotype, en solitaire. Donc on a tous les bateaux, ils sortent du même moule. Et tout ce qui n'est pas écrit, expressément écrit dans les règles de classe est interdit. Donc du coup, je n'ai pas le droit de... Si il y a ce padaille-là qui est rajouté, c'est parce que c'est écrit que j'ai le droit d'en rajouter. Mais j'ai pas le droit de faire de trous, le droit de coller des padailles. Donc voilà, tout ce qui n'est pas écrit est interdit. Je peux proposer à la classe de faire une modification des règles de classe. Parce que je trouve que c'est pertinent de faire ça. Ça peut être accepté ou non.
Et vous avez même les mêmes voiles? Est-ce que les voiles sortent du même...
Non, la seule chose qui n'est pas monotype, ce sont les voiles. Et pourquoi les voiles ne sont pas monotypes? Parce que c'est quand même compliqué de faire des voiles strictement identiques, rigoureusement identiques. Et après, il y a des travers. Hein. Quand on commence à faire de la monotypie sur les voiles, il y a quand même des travers de coûts, de logique de coûts, etc. Donc, en perte de qualité, donc c'est... Voilà, le fait que les voiles soient pas monotypes, c'est un choix et sportivement, c'est pas tant un problème que ça.
Et comment est-ce qu'on vérifie, par exemple, qu'une personne ponce pas son foil alors que c'est interdit ou
Il peut y avoir des carottages.
C'est-à-dire
qu'on fait un trou et on vérifie, ok, s'il y a pas d'enduit, s'il y a pas de, voilà, on peut vérifier.
Dans la structure?
Ouais, ça s'est fait en Figaro 2.
Quand on avait des doutes.
Ouais, des doutes, ils ont carotté, chut, gros trou, ok. Pourquoi s'il y a de l'enduit ou pas? Donc voilà, ça peut...
Et c'est très surveillé aujourd'hui sur le circuit Figaro?
Bah, on a un passeport bateau. C'est-à-dire que quand on doit passer le bateau au chantier, pour quelqu'un travaille sur le bateau, il faut qu'il soit à la classe. Donc il a les règles de classe. Et après, si quelqu'un voulait s'égarer, en tout cas, on peut tous visiter un bateau qui est au chantier. N'importe quel adhérent de la classe peut aller visiter un bateau qui est en chantier.
Et une fois mis à l'eau, non?
Une fois mis à l'eau,
t'as le droit de monter sur un bateau et dire s'il vous plaît, oui. Je voudrais inspecter.
Par contre,
ce qu'il y a à l'intérieur.
Je peux pas moi comme ça. Si je vais voir le skipper, je peux lui dire ok, moi je veux voir ça. Il peut me dire oui, mais il peut me dire non. S'il me dit non, j'ai la voie officielle, c'est de le demander à la classe. La classe valide et là je peux aller voir.
Et la classe ne refuse
parce
jamais,
que,
j'imagine.
En fait, non. Mais après, c'est pour éviter si faire du harcèlement. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui.
À quoi ça ressemble tes entraînements? Parce que t'as combien de jours de course à peu près dans une année? À la grosse, hein. On n'est pas là pour.
Alors
pour
là, par exemple, en 2022, il y avait 9 épreuves au circuit. Alors on peut aller dans d'autres épreuves, mais déjà, ça fait quand même un gros morceau. Moi, par exemple, cette année, j'en ai annulé deux qui n'étaient pas parce qu'il y a le circuit du championnat de France élite de course au large. Moi, j'en ai annulé deux qui étaient en plus parce que c'était trop. Je commençais à trop courir dans tous les sens. Donc du coup, les épreuves, il y en avait 9, donc j'en ferai 7 cette année, sachant que si on prend la solitaire du Figaro, c'est déjà un mois. Et donc en fait, ça enchaîne des fois. On voit 2 semaines entre deux courses. Mais en fait, entre deux semaines, faut récupérer de la dernière, préparer la prochaine. Donc comme ça, on croit qu'il y a des trous dans la saison, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça.
Tu t'entraînes en même temps que tu participes aux courses? ou t'as un coach qui te prend à part quand t'es justement entre deux et qui te dit bah viens on va naviguer ensemble, je te suis avec mon Zodiac et je regarde ce que
bah sur les plus gros trous ouais, sur les plus gros trous on a des séances d'entraînement. Moi je suis à Lorient Grand Large, donc il y a une structure, une association qui fédère les skippers qui sont à Lorient et qui nous permet de nous entraîner ensemble. Mais quand la saison est lancée, des entraînements, il n'y en a plus tant que ça. C'est plutôt en avant-saison qu'on s'entraîne et qu'on essaye des choses.
À propos d'entraînement, etc., tout ça a un coût. Tu as dit que tu voulais pas forcément rentrer dans le détail du modèle économique. Ce qu'on voit, nous, de l'extérieur, c'est qu'il y a des sponsors qui mettent de l'argent, qui bénéficient de cette visibilité. Mais j'imagine que vous n'avez pas tous les mêmes facilités.
Non.
Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont dans des structures, d'autres qui doivent se débrouiller tout seuls.
Oui, tout à fait.
Comment ça s'organise en fait tout ça?
Du coup, tiens, mais là, voilà.
Il y a une mouette avec nous.
Du coup, ouais, comme tu dis, le modèle économique est différent. Il y a des écuries, qu'on peut rappeler des écuries de course au large. On peut citer Massif et CMB Région Bretagne. Eux, ils ont un projet qui dure dans le temps et qui a une sélection de skippers. Donc en fait, c'est très pertinent, ça marche très bien. Le skipper est sélectionné, il rentre dans, on va dire entre guillemets, dans un moule avec une structure qui est bien établie. Et c'est sûr que la courbe de progression, elle en est forcément facilitée puisqu'il y a moins de soucis de gestion de manière commerciale. Il n'y a pas de démarchage de partenaires. Les factures, il suffit de les envoyer. Il y a une secrétaire. Il y a une structure. Il y a les communicants qui sont déjà en place. Donc voilà, la structure est en place. On rentre dans cette structure et puis on s'occupe exclusivement, plus ou moins exclusivement du sportif. Et après, la plupart des skippers sont pas sous ce fonctionnement-là. Ils se débrouillent pour trouver des partenaires. Ils se débrouillent pour trouver des communicants. Pour ma part, c'est ma femme. Donc voilà, c'est pour ça que les marins sont en général assez débrouillards. C'est que du coup, il faut être un peu multicasquette. Il y a le sportif, il y a la bricole, il y a l'aspect un peu chef d'entreprise. On emploie des préparateurs. Et donc, forcément, c'est une grosse partie de l'énergie qui part dans la gestion du projet et pas dans le sportif, quoi. Donc voilà, c'est les deux montages.
Tu l'as compris avec toutes nos discussions, je suis un grand fan des réseaux sociaux. Dans quelle mesure vous retrouvez contraint à vous y mettre, pas forcément par passion, mais parce qu'aujourd'hui, c'est là que les yeux des gens sont?
Par mon passé, forcément, moi, je découvre un peu les réseaux sociaux, le bon et le moins bon. En tout cas, pour nous, c'est super parce qu'on a un accès direct à les gens qui nous suivent. Donc c'est quand même sympa d'avoir plein de commentaires et d'encouragement dans nos projets. Et comme tu disais, ça nous permet de parler de nos valeurs. Je pense que aujourd'hui, c'est un petit peu comme dans tous les sports. Notre rôle, c'est de vendre un peu de rêve. Et même si les gens n'aiment pas forcément le bateau, parce que j'emmène un de mes partenaires à bord. Le but, c'est d'embarquer aussi les gens avec nous. Donc mes partenaires, je les embarque à bord, mais ils voient un peu la rugosité de l'élément et puis le bateau, le Figaro, il est dur quoi. Clairement, il est dur. Et on vit un peu sur la tranche quoi. Quand on voit les bateaux, ils sont toujours à la gîte. C'est pas forcément facile à vivre pour les gens. Donc voilà, on essaie de. C'est pas parce que les gens n'apprécient pas aller sur l'eau parce que c'est impressionnant, mais ça les intéresse de suivre. Donc on a une chance, c'est que on touche un public et je dis souvent, nous on a la chance dans le sport, il y a personne qui nous, on n'est pas hué. Le dernier est accueilli comme le premier au Vendée Globe. Et puis c'est pas un supporter qui tape trois fois dans le ballon et qui débrief les gens qui font ça tout le temps et qui sont les meilleurs sportifs quoi. Donc du coup, on a cette chance-là, on peut nous dire, ah mais pourquoi t'es allé là-bas? Ah oui, d'accord, je comprends. Mais on nous dit pas, franchement, t'es nul, t'aurais jamais dû faire ça. Bon, c'est quand même sympa quoi d'avoir un public qui est respectueux de notre pratique et qui respecte quand ça marche bien et quand ça marche moins bien aussi.
Est-ce que tout le monde peut le faire? J'ai deux exemples en tête, ça fait un lien d'ailleurs avec la communication. Clarisse Kremer, atterrir dans le milieu de la voile, il me semble pas qu'elle soit issue d'une famille de marins, crever l'écran et au passage faire des belles perfs à la voile. Et je pense également à Jean-Marc, j'ai suivi l'histoire de loin, mais visiblement on était sur cadre parisien à Paris, j'en ai marre, je veux faire autre chose de ma vie. Ma question c'est, est-ce que Quelqu'un qui n'est pas du milieu, mais a une sensibilité pratique et qui est motivé, tu parlais de motivation, peut s'y mettre ou c'est très très difficile?
Bon, je pourrais faire le démago et puis dire que c'est pour tout le monde. Non, je pense qu'il y a des gens qui aiment pas. Il faut, et le seul moteur, c'est l'envie, quoi. Et après, une fois qu'on a l'envie, il y a tout le reste suit. Et peu importe qu'on soit envoyé depuis tout petit ou pas, la chance, c'est que la course au large, c'est un nouveau départ. Donc, le bon exemple, c'est Clarisse. Elle avait pas son passé de voileuse pour elle, mais elle avait d'autres cartes en main. Et puis après, je pense que tout le monde peut apprendre. C'est juste une histoire d'envie. Et en tout cas, elle l'a prouvé. Elle a vite appris. Ses cartes en main, c'est son côté. Elle communique très bien. Et donc ça fait mouche. Hein, si Banque Populaire est allée la chercher, c'est qu'elle a, elle a appris plein de choses en mini. Elle a fait du Figaro où elle s'est pas si mal démerdée que ça, du tout. Et donc du coup, finalement, elle a appris très vite. Elle a fait du bateau, et elle sait communiquer. En gros, elle a un peu tout ce qu'il faut pour valider toutes les cases pour des plus gros projets. Donc quand Banque Populaire va la chercher, ils savent qu'elle sait faire du bateau et qu'elle sait communiquer et elle sait embarquer les gens et les faire rêver. Et en fait, comme je disais, notre métier, c'est gagner, mais je pense que faire embarquer les gens avec nous, ça fait partie aussi de c'est notre rôle. La vieille image du vieux loup de mer qui part faire ses courses et qui gagne tout seul et qui fait un interview à l'arrivée. Bon, si celui qui a pas compris que le monde avait changé et qu'aujourd'hui, il faut embarquer les gens avec nous et les faire vivre nos aventures. Alors, quand ça marche bien, mais quand ça marche pas bien aussi. Et je pense qu'il rate à côté il passe à côté de notre métier d'aujourd'hui, quoi.
Alors, le monde a changé. Le monde change. Ouais. Le monde a eu chaud cet été. Est-ce que tu considères que vous faites un sport écologique? Parce que de l'extérieur, ça l'est. Vous naviguez à la voile, le moins possible au moteur. En course, vous n'avez pas le droit d'utiliser le moteur, tout simplement. Il est plombé, donc on est sûr que vous ne cramez pas une goutte de gasoil. En revanche, j'ai vu des photos de Figaro qui rentrait de l'autre bout de l'Atlantique en cargo. Est-ce que tu penses que c'est encore, j'allais dire, acceptable? En fait, je suis assez d'accord avec le fait que l'impact est sans doute mineur au regard de tout ce qui se passe dans le monde, mais étant donné que c'est un sport qui est beaucoup regardé et qui est vu comme quelque chose d'exemplaire de ce point de vue-là, est-ce que ça peut continuer des courses comme ça?
Moi, je dis souvent, le vrai écolo, c'est celui qui bêche son champ et qui a une tiny house, qui chauffe à minima, etc. Pour moi, ça, c'est le vrai. Tout le reste, on peut trouver des excuses tant qu'on veut, mais est-ce que la voile est écolo? Non, je suis pas sûr. On va quand même sur l'eau, sur des bouts de plastique, en changeant de voile tous les ans, parce que la performance est là. Donc, est-ce que la voile, c'est écolo? Non, c'est pas écolo, on sauve pas la planète. Par contre, alors ça fait un petit peu s'acheter une bonne conscience, mais par contre, on peut inspirer des gens par notre notoriété, et moi notamment c'est plus dans ma vie personnelle que j'essaye d'avoir de la sobriété, beaucoup de sobriété. Et moi je suis engagé au sein de la classe Figaro, dans la commission RSE, mais on réfléchit quand même à notre impact, et on essaie de se poser des questions, comment le diminuer. C'est pas évident, c'est évident dans aucun domaine, changer c'est difficile. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en Figaro, vu qu'on est en monotype, les bouts de plastique sur lesquels on flotte là en ce moment, en fait, ça peut durer très longtemps si c'est bien entretenu, ce qui est le cas puisqu'on fait de la course avec. Et donc là, on n'est pas sur de la course à l'armement parce qu'on a le même bateau. Donc du coup, là, pour le coup, la classe Figaro là-dessus je pense qu'elle est bien. Et là, il y a eu donc l'organisateur de la solitaire au C-Sport, a une politique, c'est Racing Sport. Et a fait des bilans pour voir où est-ce qu'on était les gros impacts de notre sport. Et en gros, aujourd'hui, c'est plutôt le transport sur la solitaire purement, c'est le transport. Alors, les gens qui viennent aussi nous voir sur les villages. Alors, s'ils venaient pas nous voir sur les villages, ils feraient autre chose qui serait peut-être plus polluant, hein, ça, on sait pas. Donc, il y a un système et on a un impact, qui est pas négligeable. Mais par contre, je dirais juste qu'on essaie de donner de la visibilité à, moi, j'essaye, en tout cas, via notamment la Fondation de la Mer, de donner de la visibilité à des actions qui sont protectrices de l'environnement. Mais voilà, il y a plusieurs actions. Moi, j'essaye de, Alors, c'est marrant, j'ai eu un échange avec Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui, que je salue, pour ceux qui connaissent. Je pense que...
Je lui enverrai la vidéo.
Donc voilà, moi, je suis beaucoup son travail. Et il m'a dit, 5% par an. Il m'a dit, tu peux pas faire du jour au lendemain. Il m'a dit, améliore de 5% par an, c'est ça l'objectif. Sinon, on va être très déçus, frustrés, et on n'y arrivera pas. Donc voilà, il s'est diminué. Donc moi, au sein de la classe Figaro, ce que je voudrais, c'est qu'on mutualise les transports et que tout notre matériel qui passe par la terre passe dans un camion. Et en fait, on n'est pas avec 100 bagnoles qui passent par la terre, mais un camion et un bus ou deux bus. Et ce qui fait que on sauve pas la planète en faisant ça, mais on diminue énormément l'impact. Et pour le confort individuel, il diminue, mais pour l'impact général... Là il augmente dans le bon sens. On a vraiment une amélioration de notre impact. Alors on peut faire le calcul de bilan de CO2 économisé, mais faire ça, on économise énormément quoi.
Et pour la Transat où on a les sponsors qui vont 4 jours aux Antilles pour boire une coupe de champagne, on fait quoi?
Encore une fois, je critique pas, ça s'est toujours fait. La Transat fait rêver beaucoup de gens, mais moi j'ai décidé de pas la faire parce que un bateau qui traverse l'Atlantique et qui peut pas rentrer tout seul, moi je considère que c'est plus de notre temps quoi. Donc voilà, en IMOCA ça va tellement vite que il faut en aller un retour, c'est cohérent. Moi personnellement, je ferais pas la Transat en Figaro parce que je considère qu'on peut faire d'autres belles courses sans avoir besoin. Et si on peut traverser l'Atlantique et puis on fait une course retour, mais attention, là il va y avoir moins de monde, il va y avoir moins de volontaires, je pense.
Contre vent et courant.
Ouais, c'est ça. Du coup, les conditions et puis il va avoir un coup, il va avoir. C'est pas anodin, quoi. Donc, on est content de traverser avec le vent et les courants. Contre, c'est un peu plus difficile, quoi.
Avant de terminer, est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais parler?
Est-ce qu'il y a des choses dont je voudrais parler? Oui, j'ai pour résumer, en conclusion, aux jeunes qui sont intéressés par les métiers de la marine, n'hésitez pas à pousser la porte des SIRFA. Il y en a partout en France. Des SIRFA marines, mais il y a d'autres façons de servir. Et puis en termes de valeurs, s'il y a des partenaires qui sont en accord avec mes valeurs, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je cherche à compléter un petit peu mon budget 2023. Et puis je cherche des partenaires qui souhaiteraient s'engager sur un Vendée Globe 2028.
Donc, alors ça, c'était ma question d'après, effectivement. Et puis ensuite, oubliez ce qu'il vient de dire, parce que ici vous êtes sur une levée de fonds pour le cancer des enfants, donc si les zéros vont quelque part, choisissez bien. Tes projets futurs, ouais.
Juste pour revenir, donc du coup je porte aussi les couleurs de la Fondation de la Mer, qui est une fondation qui essaye d'améliorer notre impact sur les océans et qui fait des actions directes et indirectes, notamment qui soutient des ONG locales pour des, alors notamment ça peut, un exemple parmi d'autres, c'est le ramassage de déchets tout le monde entend parler, mais il y a des actions plus directes de soutien de recherche sur la protection des coraux et qui a notamment créé un label qui est un peu une première, un label qui c'est le label Ocean Approved, et c'est une démarche où les entreprises s'engagent à une labellisation par le bureau Veritas, donc un bureau indépendant, donc qui finance l'audit et l'audit dit ok, là vous êtes dans le bon par rapport à la protection des océans, là vous progressiez. Donc c'est une démarche positiviste où les gens s'engagent, les entreprises s'engagent. Et moi je suis très soucieux je suis inquiet. Enfin le terme c'est inquiet par rapport à. On l'a vu cet été, on a les premières manifestations physiques de notre réchauffement climatique. Mais voilà, comme je dis, les fonds de l'eau, je les ai un peu tapissés. Du plastique, il y en a partout. En Méditerranée, notamment, que j'ai le plus tapissé. Quand on voit pas de plastique, c'est parce qu'il est recouvert des concrétions. Et il y en a partout. À chaque dépression, il y a un monceau de plastique, quoi. Donc, j'invite les gens à faire des baptêmes de plongée, allez voir, y a toujours du plastique dans le champ de vision, quoi. Je suis pas contre le plastique, je suis pour le plastique utilisé bien. Et en tout cas, quand on voit du plastique au fond de l'eau, ça y est, tu t'exprimes, toi. Quand on voit du plastique au fond de l'eau, c'est pas les autres, c'est nous. C'est-à-dire qu'on a tous un plastique qui s'envole, on a tous, tu vois, ça c'est le folklore, tu vois. On est en rade de Brest, Et puis elle s'exprime, elle, on parle de l'environnement.
Et elle est d'accord.
Elle est tout à fait
la
d'accord.
La mouette est complètement d'accord.
Donc là, ça veut dire oui. Ça veut dire oui en mouette. Donc voilà, cette thématique-là est importante. Et en tout cas, la transformation ne sera pas que par le gouvernement. Elle ne sera pas que par les entreprises. Elle ne sera pas que par les institutions. Elle se fera aussi par les individus. Et elle se fera à tous les niveaux. Ou elle ne se fera pas. Mais là, ça va être très compliqué si ça ne se fait pas.
Avant que je fasse un appel pour laisser une dernière fois aux gens le choix entre te sponsoriser et faire un don pour la recherche sur le cancer des enfants.
Il y a pas, ça peut être et où. Hein.
C'est vrai, on n'est jamais assez généreux. Tes projets futurs, tu nous as évoqué un Vendée Globe.
Oui, donc là pour l'instant je navigue en Figaro. L'idée c'est de repartir en Figaro l'année prochaine. Et cet hiver, je vais prendre ma casquette de commercial et d'essayer de vendre un projet Vendée Globe 2028. Par contre, ce projet-là, je souhaite lui donner une tonalité et qui va avec mes valeurs. Voilà. J'en dis pas beaucoup plus, mais c'est un petit peu mon idée de trouver les gens qui sont en accord avec ces valeurs. Donc, pour certaines personnes, attendez-vous à me voir vous contacter.
Moi, je suis hyper content parce que maintenant que j'ai ta carte de visite, si je veux passer à la vitesse supérieure et faire un reportage sur un IMOCA, j'ai juste à attendre un peu alors.
Si j'étais un bon commercial cet hiver, oui.
Alors juste pour que vous sachiez, j'en avais discuté avec Tanguy Le Turquet, je crois qu'une saison en Figaro, on était sur l'ordre de grandeur, c'est 150 000 euros.
Ouais.
Et quand on passe sur IMOCA, on parle de millions.
Ouais, on est plutôt à millions, oui. Mais par contre, la visibilité, hein, voilà. Juste pour l'exemple, Virtual Regatta, pendant le Covid, c'est plus d'un million de personnes qui se sont inscrites et qui sont allées juste un peu jouer et essayer de comprendre comment fonctionnent ces courses-là.
Philippe, merci pour ton accueil. Merci pour le dîner hier soir avec les dauphins. C'était très bien organisé, hein, cette attraction. Là. Bravo.
Ouais. Attends, bah, du coup, comment on appelle les dauphins alors?
Bah, Flipper.
Non.
Comment est-ce qu'on les fait venir? Si vous êtes sur un bateau et que vous voulez faire venir un dauphin, vous mettez de la musique. C'était quoi? Interstellar?
Bah, n'importe quoi. Ils sont curieux.
Mais Interstellar a quand même pas trop mal marché.
Ouais.
Et si vous voulez les régaler, vous regardez le sketch d'Orelsan et Jonathan Cohen sur Freddy. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez soutenir la cause de la recherche sur le cancer des enfants, vous pouvez faire un don avec le lien en description. Il est défiscalisable et reversé à 100% à la recherche. Je ne garde pas un centime. Et si vous avez aimé cet épisode, vous allez adorer celui qui s'affiche à l'écran.